Donc vous connaissez l'histoire d'Astérix, hein? Astérix et Obélix, ils vivent dans la Rome antique. Bon, l'histoire est située avant la période de la rédaction de l'Épître aux Romains, mais bon, le contexte permet quand même de saisir les images, et donc l'image d'un monde qui est dominé par l'Empire romain. Et tout le monde est sous la domination de l'Empire romain, toute l'espace civilisé. Et dans l'histoire d'Astérix et Obélix, Astérix et Obélix, ce sont des résistants. Ils ne veulent pas de la domination de l'Empire romain et ils résistent. Et on peut reprendre là l'image de cet Empire romain, c'est le péché qui règne sur le monde entier. Et en fait, l'apôtre Paul veut nous démontrer que le péché règne sur tous les hommes, que tous les hommes ont besoin de Jésus. Et c'est ce qu'il s'attache à faire pendant tous ces premiers chapitres. Alors, qu'est-ce qu'on a vu les 2 dernières semaines? On a vu que Dieu était juste quand il condamnait les hommes à cause du péché. Et il prend plusieurs cas. Et il a pris déjà 2 cas de groupes de personnes. Il y avait dans les premières épîtres le cas des impies qui se détournent de la révélation de Dieu qui a lieu dans la nature, dans la création. Et donc, le fait qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu a créé tout l'univers et tout ce qui nous entoure, fait que. Peut-être je vais enlever le masque, on m'entendra mieux, comme je suis loin. Fait qu'ils se fabriquent en fait des idoles. Ils se détournent de Dieu, mais c'est pour se faire d'autres dieux. Et ils se fabriquent également des passions dans lequel ils sombrent et dans lequel Dieu les livre en quelque sorte. Et ils vont avoir de très mauvaises conduites parce qu'ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Et ils savent que Dieu désapprouve ces choses-là, mais ils persévèrent dedans. Ils persévèrent dedans. Et c'est Paul dit que la condamnation de ces gens est juste. Eux-mêmes le savent et eux-mêmes persévèrent. C'est un premier groupe de personnes. Un second groupe de personnes, c'était les personnes qui sont les moralistes un peu. Ils jugent que ce premier groupe de personnes est vraiment mauvais, qu'ils agissent très mal. Et à ce moment-là, ben, eux, ils les jugent. Ils disent, ah, ceux-là, vraiment, il n'y a rien à faire avec eux. Et ils se voient, eux, comme de bonne moralité par rapport aux autres. Et l'apôtre Paul souligne que ce que font les impies du début à grande échelle, eux, ils le font à petite échelle. Ils le font à petite échelle et ils sont quand même responsables de cela parce qu'ils ont une meilleure connaissance de Dieu, de sa volonté, et d'autant ils ont une bonne connaissance de sa volonté, d'autant ils devraient avoir conscience que Dieu patiente envers eux, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils viennent à Jésus. Et ces personnes-là, si elles ne veulent pas se repentir devant le témoignage de la patience de Dieu, devant le témoignage des autres personnes qui n'ont pas toute cette connaissance qu'eux ont de ce qui est bien, de ce qu'ils pensent qui est mal, mais qui agissent bien, qui agissent droitement, eh bien, s'ils persévèrent, leur condamnation est juste. Et un jour, il y aura le grand jugement, où Dieu fera rendre compte à tous les hommes de tout ce qu'ils ont fait dans le secret. Et il ne s'agit pas là de ce qui est fait au grand jour, comme dans le premier chapitre. Dans le premier groupe de tout à l'heure, des impies qui font les choses au grand jour, ils se cachent pas. Et là, ces personnes-là, ben, il y a ce qu'elles font dans le secret. Et donc, il faut que ces personnes viennent à Jésus si elles ne veulent pas être condamnées. Chacun sera en effet jugé proportionnellement à ce qu'il connaît de la volonté de Dieu. On peut voir également ces deux premiers groupes comme la faillite de capacité humaine. Les impies s'appuient sur leur propre intelligence. Ils pensent être sages, mais ils sont fous. Leur intelligence est en fait faussée à cause du péché. Et les moralistes, eux, ils s'appuient sur la propre conception qu'ils font du bien et du mal. Et là aussi, leur conception qu'ils ont, ou l'appréciation qu'ils ont de ce qui est bien ou de ce qui est mal, est complètement faussée, elle aussi. Le jugement est faussé, l'intelligence est faussée, et les hommes font faillite au niveau de des capacités sur lesquelles ils veulent s'appuyer. Alors on va voir un troisième groupe de personnes ce matin. Il s'agit des juifs religieux de l'époque qui étaient dans la diaspora. Alors j'ai une petite vidéo qui va vous faire sourire. Donc, c'est une émission qui a été enregistrée au tout début de la télévision. Ça s'appelait L'As des As. Échec aux As, pardon. Et c'est au début de la télévision française. On est en 1958. Alors, je ne sais pas si vous étiez né à ce moment-là. Moi, je n'étais pas né. Et on va regarder un petit peu cette émission. C'était une autre époque. Vous allez voir, vous allez reconnaître Pierre Belmar, qui est un animateur à l'époque, et on est au tout début de la télévision. C'était même, on appelait même pas ça la première chaîne à l'époque.
Et bien maintenant, cher monsieur Azoulay, voici la première de nos 5 épreuves. J'espère que vous pourrez y répondre, et je souhaite que nous restions en votre compagnie jusqu'au terme des 4 semaines. Nous avons, c'est la règle du jeu, beaucoup à vous demander, mais vous avez, je crois, encore plus à nous apprendre. Alors ensemble, nous allons feuilleter ces innombrables pages de l'histoire sainte en nous efforçant de choisir les plus simples, les plus belles, les plus vivantes et les plus savoureuses aussi, disons-le. Mm-hmm. En un mot, nous allons découvrir la Bible. Merveilleux livre d'aventure, aventure que les peuples ont toujours vécu et que nous vivons encore. Alors voici maintenant cette première épreuve. Nous sommes, monsieur, au moment précis où commence véritablement l'histoire sainte. Déjà depuis des milliers d'années, les hommes bâtissent des villes, s'y installent, en sont chassés et s'en vont en rebâtir ailleurs. D'autres, plus pacifiques, cherchent des espaces libres en poussant leurs troupeaux devant eux. Voici qu'à la porte d'une ville apparaît l'un de ces hommes. Il a quelque affaire urgente à débattre avec les gens du lieu. Je vous prie d'écouter attentivement leur conversation.
Je suis chez vous un étranger et un hôte. Accordez-moi chez vous une concession funéraire pour que j'enlève mon corps, mon mort et l'enterre.
Monseigneur, écoute-nous plutôt. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Enterre ton mort dans la meilleure de nos tombes.
Si vous voulez bien que j'enterre mon mort, écoutez-moi plutôt et intercédez auprès de lui pour qu'il me cède la grotte qui lui appartient et qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède pour sa pleine valeur en votre présence, comme concession funéraire.
Monseigneur, écoute-moi plutôt. Je te donne le champ et la grotte. Je te les donne devant les gens de mon peuple. Va, enterre ton mort.
Ah, si c'est toi qui m'en prie. Mais écoute-moi plutôt. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. Et j'enterrerai là mon mort.
Monseigneur, écoute-moi plutôt. 400 sicles d'argent entre toi et moi. Qu'est-ce que cela ? Enterre ton mort.
Désormais, le champ et la grotte sont ta propriété. Nous en sommes témoins.
Eh bien, cher monsieur, vous venez d'assister à cette petite scène. Je vous demande maintenant quelques réponses. Premièrement, quel est le personnage qui vient de conclure cette affaire et quel est le mort qu'il veut enterrer?
Le personnage, c'est Ephron, le Hittite. C'est Abraham,
oui.
Abraham, qui converse avec Ephron pour lui acheter la caverne double de Machpelah, pour y enterrer sa femme, Sarai. Sarah.
Oui, c'est ça. Vous traduisez toujours, n'est-ce pas? Parce que vous en, c'est exact, vous avez raison. Mais enfin, je vous demanderai d'employer les termes que nous avons l'habitude d'employer, nous, pour désigner ces personnages. Vous avez parfaitement raison. Vous faites le petit mécanisme régulier.
Ah, oui, oui.
Donc, c'est tout à fait juste. Effectivement, c'est Abraham qui vient demander une sépulture pour Sarah, sa femme, qui est morte. Bien. Et c'est la grotte. Il veut faire l'acquisition de la grotte de Macpéla, comme vous l'avez dit très justement, afin d'y enterrer sa femme. Or, pour en arriver là, Abraham avait fait un long voyage.
Oui.
Bien. Sur cette carte, monsieur, qui apparaît maintenant, regardez bien l'écran,
oui.
Vous allez, avec le crayon gras que je vous remets, voyez-vous, de ce côté-là, il faut écrire,
oui.
Nous tracer le trajet suivi par la tribu d'Abraham de son point de départ au lieu précis où se situe la scène qui vient d'être évoquée et qui nous a permis d'entendre les paroles mêmes prononcées il y a 4000 ans. Alors, monsieur, je vous demande d'aller vers cette carte. Allez-y,
oui.
Allez-y, je vous en prie. Allez vers la carte et tracez vous-même, monsieur, le parcours de la tribu d'Abraham, de son point de départ jusqu'à ce lieu où s'est déroulée tout à l'heure la conversation que nous avons entendue. Allez-y, monsieur, vous avez pour cela 2 minutes. Commentez votre tracé, oui, je vous en prie, à haute voix.
Il part de Ur en Chaldée.
Oui.
Qui se dit en hébreu Ur Kasdim.
Oui.
Et alors, il longe l'Euphrate. Et il monte jusqu'au point culminant qui est Haran. Et il arrive jusqu'à Haran. Et ensuite, il descend pour se diriger vers l'Égypte, vers le pays de Canaan, et ensuite vers l'Égypte. Alors, il fait ceci. Et il descend jusqu'en Égypte.
Mais où se situe, monsieur, la scène que nous venons d'entendre?
Eh bien, la scène que nous venons d'entendre se trouve à Hébron.
Eh bien, c'est parfaitement juste, monsieur, c'est exact. Je voudrais vous demander maintenant une dernière chose, s'il vous plaît. Revenez, je vous en prie. Vous y répondrez en revenant près de moi. Je voudrais vous demander une dernière chose. Comment s'appelait en quelque sorte ce parcours qui a une certaine forme, s'il vous plaît? On l'appelle d'un certain nom.
Oui, on appelle ça le croissant fertile.
Le croissant fertile, c'est tout à fait exact.
Et moi, je l'appelle une parabole.
Vous l'appelez une parabole?
C'est tout à fait la forme d'une parabole. Une parabole géométrique, d'ailleurs.
C'est exact. C'est
et parce qu'effectivement, elle est en rapport avec la parabole arithmétique du nombre qui est en rapport avec le sommet culminant de cette parabole, qui est Haran.
Oui, bien. Écoutez, nous n'allons pas rentrer dans des détails,
parce que
je vais me perdre un peu, et je sens en même temps que nos téléspectateurs, si nous rentrons dans les hautes mathématiques, vont se perdre également.
Oui, évidemment, oui.
Et monsieur...
Voilà. Vous allez dire pourquoi on a regardé cette petite vidéo. Vous allez comprendre pour la suite. On va lire le passage d'aujourd'hui qui nous concerne. Alors, Épître aux Romains, chapitre 2, et je vais lire les versets 17 au verset, on va commencer 24 et on lira la suite tout à l'heure. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui met ta fierté en Dieu, qui connaît sa volonté, et qui est instruit par la loi, qui sait discerner ce qui est important, toi qui es persuadé d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur apte à corriger les gens déraisonnables, à instruire les tout-petits, parce que tu as dans la loi l'essence même de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Toi qui dis qu'il ne faut pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as les idoles en abomination, tu commets des sacrilèges. Toi qui mets ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu par ta transgression de la loi. Car c'est à cause de vous qu'on calomnie le nom de Dieu parmi les nations, comme il est écrit. Alors, on a là quelque chose de très sec de l'apôtre Paul vis-à-vis des Juifs. Il les cible très précisément avec ce mot « toi » et on a l'impression qu'il montre du doigt vraiment. Dieu est-il juste quand il condamne les religieux juifs? toi le juif qui as une connaissance de Dieu supérieur aux païens, tu es condamnable aussi, car la circoncision ne sert à rien si on pêche. Toi le juif qui as une connaissance de Dieu supérieur. Alors est-ce que nous avons déjà rencontré des juifs semblables à ce que Paul décrit? Moi j'ai jamais tellement rencontré de juifs dans la région. J'ai jamais eu l'occasion de discuter avec. Donc on est mal placé pour porter une quelconque appréciation. On est séparé de 2000 ans du passage et des interlocuteurs auxquels Paul s'adresse, et les choses ont certainement changé depuis. La parole de Dieu, elle ne change pas. Voici ce que Moïse déclarait au moment où il a donné la loi. La loi a été donnée au peuple. C'est en Deutéronome, le livre de référence pour tout ce qui concerne l'Ancien Testament. Et je vais lire un passage en Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 8 et 10, versets 12 à 22 maintenant. Alors, Deutéronome, c'est juste... avant le livre de Josué, chapitre 4, versets 5 à 8. Moïse parle. « Je vous ai enseigné la loi, les ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a recommandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays que vous allez prendre possession. » C'était avant la conquête de la terre promise. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Et Moïse soulignait ici l'importance de la mise en pratique. Tournons quelques pages, chapitre 10. Versets 12 à 22. « Maintenant Israël, que demande à toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est pas que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer et être à eux. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur. Vous ne raidirez pas votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas de favoritisme et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi toutes ces grandes et terribles, ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte en nombre de 70 personnes et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Quel privilège avait le peuple juif. Et il est difficile de s'imaginer le contraste qu'il pouvait y avoir entre les juifs qui avaient l'Ancien Testament, tous les livres de la loi de Moïse, toute cette loi et la connaissance qu'ils avaient de Dieu, quelle différence il y avait avec l'idolâtrie, et le système du paganisme qu'il y avait dans le monde gréco-romain, avec toute cette mythologie. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de regarder ça, comment ça fonctionnait, hein, ça ressemble à des histoires de lutte de pouvoir, des histoires de fesses, hein, et des histoires de dieux qui se prennent, s'abrogent des prérogatives et qui, de toute façon, sont loin des préoccupations des humains. Avec la connaissance de l'Ancien Testament que les Juifs avaient, c'est la nuit et le jour. Cela donnait au peuple juif une grande supériorité sur les autres peuples et aussi une grande responsabilité devant leur Dieu. Tu es pécheur toi aussi, souligne Paul. Paul, en tant qu'ancien pharisien, zélé pour la loi de Moïse, sait de quoi il parle. Les reproches qu'il adresse aux Juifs de la diaspora est accablant. C'est une lettre qu'il envoie à Rome. Il s'adresse là aux Juifs de la diaspora. Comment pouvait-il dans le même temps avoir en main la révélation de la volonté de Dieu trois fois saint et de l'autre se conduire si mal? Paul fait mention de vol, d'adultère par rapport à ce sacrilège dont il leur fait le reproche. Les historiens pensent qu'il s'agit là de commerce d'idoles. Pour eux, les idoles n'étaient rien, mais les Juifs trouvaient bon d'en faire le commerce. Et je pille d'un côté et je revends de l'autre et je fais de l'argent avec tout cela. C'était pas du tout ce qu'attendait le Dieu trois fois saint. Et donc Paul conclut, ce n'est pas la connaissance de la volonté de Dieu qui sauve, mais c'est l'obéissance à la volonté de Dieu que Dieu a révélée. Ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Regardons la suite de notre texte. Certes, la circoncision des Juifs, donc, la circoncision est utile si tu mets la loi en pratique, mais si tu es un transgresseur de la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les justes ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Être vraiment juif, celui qui est dans le secret. Sa circoncision, c'est celle du cœur, qui révèle, non pas de la lettre, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais il la reçoit de Dieu. Quel est donc l'avantage du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Ils sont considérables de toute manière. La circoncision ne sert à rien si on pêche. Comme la semaine dernière, c'est l'exemple d'autres personnes qui vont fermer la bouche aux Juifs lors du jugement. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui, sans connaître la loi de Moïse, comme eux la connaissent, accomplissent les commandements que prescrit cette loi. Et on peut avoir en tête les 10 commandements. Et alors que eux, experts de la loi, ne l'accomplissent pas. Et quelles pouvaient être ces personnes de cette époque-là qui, sans être juives, accomplissez ce que la loi de Moïse demande. Le groupe de personnes qui nous vient immédiatement à l'esprit, ce sont les chrétiens de cette époque-là, qui n'ont pas la circoncision dans la chair, mais qui ont la circoncision dans le cœur, comme le demande l'idéal de la loi de Moïse. Et ces personnes-là, donc, vont être des témoins de la faillite de ces religieux juifs érudits. Et il n'y a pas que cela. Au verset 24, « C'est à cause de vous qu'on calomnie le nom de Dieu parmi les nations, comme il est écrit, comme il est écrit. » Il y a une référence historique que l'apôtre Paul soulève ici. L'Ancien Testament donne l'exemple de la faillite personnelle de David. David avait été couché avec une femme qui s'appelait Bathsheba, et cette femme était mariée, et comme la femme est comme tombée enceinte, il a trouvé bon de faire assassiner son mari pour pouvoir récupérer la femme et l'enfant qu'elle portait. Et ça, bien sûr, c'était contraire complètement à la volonté de Dieu, et il se trouve que cela a été connu. La façon dont David a fait assassiner Uri a été connue, Uri était là, étant un soldat, a été connu des adversaires. On voit ça dans le livre de Samuel. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, comme tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » David avait fait blasphémer les ennemis de l'Éternel par sa conduite. Une faillite personnelle. Il y a une faillite collective également. Le peuple juif avait été jugé collectivement. Ils avaient été chassés de la terre promise, envoyé en déportation. Et là, en déportation, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel chapitre 36. Je vais lire quelques versets. Ézéchiel 36, verset 16. Ézéchiel était un prophète. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminés dans divers pays, et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, « C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom saint, de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles étaient allées. Il y a faillite historique des Juifs. Auquel il est fait mention ici. Pourtant, Paul n'est pas antisémite. On pourrait peut-être le penser qu'il a quelque chose contre les Juifs, mais non. Il est lui-même juif et il aime ses frères. Il le dira un peu plus loin dans la lettre. Il s'adresse à une communauté chrétienne composée majoritairement de non-juifs, mais il y avait des juifs parmi cette communauté chrétienne. Et donc, les passages qu'on a lus dans l'Épître aux Romains témoignent de l'importance qu'avait aux yeux de l'apôtre Paul le peuple juif et l'honneur qui était le sien. On a lu ces passages, je ne les ai pas notés le moment venu, mais c'est intéressant d'y revenir. Chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, » dit l'apôtre Paul. Et un petit peu plus loin, la semaine dernière, on a vu ça également. « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, et puis pour le grec. » Car devant Dieu, il n'a pas de favoritisme. Et ici, au verset 3.1, où il signale quel est l'avantage des Juifs, quelle est l'utilité de la circoncision, il est grand, de toute manière. Il est grand, de toute manière. L'apôtre Paul n'est pas du tout antisémite. Si on lit la suite de notre texte et d'Ézéchiel, on voit que Dieu avait en fait un plan de restauration pour son peuple. Je lis la suite du texte de tout à l'heure, Ézéchiel 36. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Autant le peuple juif a été un sujet de blasphème, autant il va devenir un sujet de sanctification. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances, mes lois, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Une magnifique promesse pour le peuple d'Israël. Mais tant qu'ils refusent Jésus-Christ, les Juifs sont sous la condamnation de la loi de Moïse. Et c'est ainsi que Paul voit et décrit la situation. Ce n'est pas d'appartenir au peuple juif qui sauve, mais c'est l'obéissance au commandement de la loi. Et là, il y a faillite. Est-ce que, si l'on est élargi aux religions, comment sont les chrétiens? Maintenant, on est 2000 ans après ces événements et le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Quel témoignage porte la religion chrétienne? Est-ce que les chrétiens ne sont pas présentés comme ayant la connaissance du vrai Dieu? Est-ce qu'ils ne disent pas « c'est nous qui avons la connaissance du vrai Dieu » Est-ce que les chrétiens ne se voient pas comme étant au-dessus des autres? Et est-ce qu'ils n'ont pas chuté, eux aussi, sur le verset 21 « Toi donc qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. » C'est à cause de vous qu'on calomnie le nom de Dieu parmi les nations. Une des fautes les plus criantes du christianisme, c'est, je ne sais pas laquelle on peut dire, mais l'antisémitisme est vraiment une faute très grave qu'ont commis nombre de chrétiens. Et on retrouve ce problème chez les pères de l'Église. On retrouve ce problème chez les théologiens de renom qui sont devenus, qui ont, au lieu d'avoir de l'amour pour le peuple juif, tel que l'avait l'apôtre Paul, ont changé cela en haine et en mépris. Alors, il faut, comme on dit, balayer devant sa propre porte. Hein. Il est incompréhensible aux évangéliques que nous sommes qu'un chrétien puisse avoir du mépris ou de la haine pour le peuple juif. Et pourtant, l'histoire dit que cela s'est produit. Ça, c'est un exemple. Il y a certainement d'autres exemples où les chrétiens n'ont pas du tout apporté un bon témoignage, où ils ont donné un enseignement et ils ont fait l'inverse. Les cas sont tellement nombreux. Alors, quelle application pour nous ce matin? J'ai noté qu'il faut proposer cela. Fuir la religion et son esprit de supériorité pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. C'est l'esprit de supériorité quand il nous habite est tellement dangereux pour le témoignage que l'on porte. Vous avez vu l'émission TV et comment je n'ai pas à chercher si ce monsieur était c'est un expert en tout cas de la Bible, et je n'ai pas à chercher s'il était juif ou s'il était chrétien d'origine, mais en tout cas il a manquer complètement la cible. Vous avez vu la porte que lui avait ouverte Pierre Belmar, comment il avait ouvert une grande porte ouverte pour qu'il donne un beau témoignage de ce qu'était la parole de Dieu, de ce qu'était la foi d'Abraham. Il avait vraiment un tapis rouge. Et lui, les minutes de parole qu'il avait, il en a fait quoi? Il a parlé de mathématiques et de paraboles, des choses que les gens ne comprenaient absolument rien et qui étaient complètement inutiles. Il voulait se mettre en valeur et il a, en fait, il s'est dévalorisé aux yeux de tous. Et surtout, aux yeux de son Dieu. Les chrétiens évangéliques ont une très bonne connaissance de la Bible et c'est une bonne chose. C'est très bien de connaître la Bible. Mais c'est le Saint-Esprit qui a circoncis notre cœur et qui va nous conduire dans la sanctification et nous donner un témoignage qui honore Dieu et le fait connaître tel qu'il doit être connu. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire cela. Ce n'est pas par les ressources de nos connaissances ou de nos capacités, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il faut fuir la religion et son esprit de supériorité pour que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé. C'est une première application. L'obéissance à la volonté de Dieu révélée, évidemment. Il y a un beau verset de Deutéronome qui parle de ça. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a une anecdote ici qui est assez connue, d'un chrétien à qui l'on interrogeait sur les passages difficiles de la Bible. Et moi, je sais que personnellement, j'aime bien quand on me pose des questions sur la Bible comme ça, « Ah, je vais pouvoir répondre, etc. » Et voilà la réponse qu'a fait, très sage qu'a fait ce frère. Il a dit, ce ne sont pas les passages difficiles de la Bible qui me posent problème. Ce sont les passages que je comprends bien. Parce que ces passages-là me demandent des changements dans ma vie. Ce ne sont pas les passages difficiles qui me posent problème dans la Bible. Ce sont les passages que je comprends et qui me demande de l'obéissance. Je ne vais pas faire des progrès dans ma vie chrétienne quand je vais avoir une connaissance supplémentaire. Je vais faire des progrès dans ma vie chrétienne quand je vais avoir une obéissance supplémentaire. C'est l'obéissance à ce qu'attend le Seigneur qui va me faire grandir. Ce n'est pas la connaissance de plus, mais c'est l'obéissance de plus au Seigneur. L'obéissance à la volonté que Dieu nous révèle. La crainte de Dieu et de sa transmission. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Ce verset est un défi pour tous les papas et pour toutes les mamans. Ils ont des enfants et ils ont un exemple à donner. Et le raccourci facile est qu'on fait suivant. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Alors que le Seigneur nous vienne en aide pour que nous vivions devant nos enfants de la façon qui corresponde à ce que nous leur enseignons. Que nous soyons les premiers à l'école du Seigneur. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. La crainte de Dieu et sa transmission. Une autre application, rendre les religieux jaloux. Les personnes religieuses vivent dans leur sphère. La satisfaction que leur procure l'accumulation de leur savoir et la louange qu'ils reçoivent des hommes les berce dans l'illusion qu'ils méritent le ciel. Ou du moins, qu'ils sont en pole position pour y arriver. Vous savez, dans les courses de voitures, il y a des rounds d'essai au début pour savoir ben, qui c'est qui va se mettre au devant et qui c'est qui va se mettre derrière. Tout le monde ne peut pas partir de front. Et donc chacun a une position dans la course qu'il acquiert par des essais préalables. Et celui qui est bien placé, qui est devant en pole position, il a toutes les chances d'arriver. Et lorsque on est religieux, on pense qu'on est en pole position. Et qu'on va y arriver parce qu'on est devant. On est devant. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Et une façon de remettre les personnes religieuses en place, c'est de vivre à côté d'eux comme accomplissant la pratique de ce qu'eux connaissent en théorie. Connaître la théorie et avoir des personnes qui mettent en pratique. Et c'est possible de faire cela en recherchant la louange qui vient de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous resserre le verset de Job 28:28. La sagesse, c'est craindre l'Éternel. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Voilà, on va prier. Seigneur, j'ai été un peu long. J'espère que je n'ai pas lassé mon auditoire qui est si précieux pour toi. Merci de nous aider à prendre conscience du danger qu'il y a de se croire supérieur parce qu'on connaît plus de choses sur Dieu. Plus de connaissances, c'est plus de responsabilités. Que nous jamais ne nous élevions devant les autres par notre connaissance. Que nous ne pensions jamais que parce que nous connaissons, nous allons pouvoir rentrer dans ton royaume. C'est ce que nous pratiquons qui compte. Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Je te prie également pour nous rendre obéissants à ta volonté jour après jour. Que ce soit des choses qui se passent dans notre vie, dans nos cœurs, parce que tu nous veux nous conduire vers la sanctification, et ce n'est pas notre tête qui va nous conduire là-dedans, ni nos capacités, c'est ton esprit qui a écrit tes lois dans notre cœur. Rends-nous, Seigneur, sensible. Aide-nous également à avoir un bon, de pouvoir bien éduquer nos enfants, d'être de bons exemples devant eux, pour qu'ils suivent le bon chemin, quand ils seront grands, comme étant des personnes qui ont eu l'exemple. de leurs parents. Et Seigneur, si tu peux parler à travers nous, que nous puissions parler, Seigneur, à ceux qui nous entourent, non pas comme des personnes qui ont une grosse tête, mais comme des personnes qui ont un grand cœur et qui vivent avec leur Seigneur et leur Sauveur, comme on a parlé du bon berger, Seigneur, et qui donne envie de te connaître et de te suivre, toi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bon, on peut chanter un chant si vous voulez, le 610, Dieu nous donne sa grâce.